voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
C'est une histoire contemporaine, mais qui semble intemporelle. Un conte d'hier et d'aujourd'hui qui fait écho à mille autres situations de par le monde. Aya habite une île, non loin d'Abidjan, une île menacée par la montée des eaux. L'océan dévore le cimetière et quand c'est sa maison qui est menacée, la jeune fille refuse de baisser les bras. Aya, c'est le nom de l'héroïne d'un film du même nom qui sort mercredi prochain sur les écrans français. Ce samedi, nous recevons son réalisateur, Simon Coulibaly-Gillard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de passage à Paris en provenance de Bruxelles. À l'affiche de notre cinéma également ce samedi, le festival Écran Noir qui se tient comme chaque année à Yaoundé au Cameroun. Nous en parlerons entre autres avec son créateur et chef d'orchestre, le réalisateur Bassek Bakobio. Et puis un documentaire sur une femme étonnante, une battante et même une combattante, Marie-Josée Tubiana, spécialiste du Darfour qui aide les déboutés soudanais du droit d'asile. Simon Coulibaly-Gillard, votre long métrage Aya débute avec ces vagues, avec ce bruit de vagues et puis des enfants qui jouent. On est où là ?
On est sur une petite île au large de la Côte d'Ivoire, une île de sable, sans électricité, sans moteur, sans route. Seulement des cocotiers et du sable fin. Quand je découvre moi ce décor, je pense à un paradis, à quelque chose de très doux. Et peu après, en fait, le chef du village me fait visiter son territoire, sa culture, et je découvre un cimetière dans lequel il y a des maçons qui, avec des masses énormes, écrasent les tombes et récupèrent les ossements des ancêtres. Et je me dis qu'en fait, le paradis qui existait là n'existe plus, il est déchu. Et je décide alors de témoigner un peu des voix de tous ces habitants qui, en fait, font face à un océan déchaîné qui dévore leur village.
Là, ce n'est pas un barrage contre le Pacifique, ça serait presque un barrage contre l'Atlantique. Simon Coulibaly-Gillard, vous êtes né en Bulgarie, mais vous avez grandi en Bretagne. Vous avez néanmoins beaucoup bourlingué en Afrique de l'Ouest, surtout au Burkina, c'est ça ?
Oui, en fait, c'est vrai que j'ai fait une carrière de cinéma qui s'est passée uniquement en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire. C'est un rapport au territoire qui a été un peu mystérieux pour moi. C'est un peu comme une histoire d'amour, on a du mal à l'expliquer. Et ça a commencé il y a déjà 18 ans de ça. Donc beaucoup de voyages, beaucoup de voyages encore à venir aussi, j'espère. Mais voilà, beaucoup de rencontres, des mondes ruraux qui me parlaient de leur envie d'exister aux yeux du monde, de leur envie de faire voyager leur langage, leur code vestimentaire, leur code alimentaire. Et c'est un peu au contact de toutes ces personnes que j'ai eu envie de faire du cinéma. C'est un peu eux qui m'ont appris, en fait, le cinéma.
Oui, parce que vous, à l'origine, vous n'avez pas fait d'école, enfin, en tout cas, pas en étudiant juste après le bac d'école de cinéma, c'est ça ?
Oui, en fait, j'ai fait un parcours plus scientifique. En France, on aime bien la science, on aime bien expliquer les choses. Donc, j'ai fait un parcours scientifique dans l'ingénierie mécanique, dans laquelle j'ai d'ailleurs jamais travaillé. Mais au cours de cette école, enfin au cours de cet apprentissage scolaire, j'ai eu vraiment le besoin de m'extraire justement de toute cette science, de toute cette sécurité, de toute cette logique. C'est comme ça que l'été, avec mon sac à dos, je suis parti à plusieurs reprises au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Bénin. Et c'est comme ça que finalement j'ai abandonné cette première carrière plus scientifique, plus
académique,
ouais, plus industrielle, et au bénéfice de quelque chose de plus poétique et qui s'avère être le cinéma.
Alors, vous avez un peu abordé le fait que vous avez découvert par hasard donc cette île que vous filmez dans Aya, c'est l'île de Laou, c'est ça ?
Laouk Panda, oui.
Et alors, comment vous avez atterri là ? Comment vous avez découvert cette île ?
J'avais un projet de film à ce moment-là qui se déroulait en Belgique. Un scénario que je voulais appliquer en Belgique pour un premier film en fait européen. Et j'avais beaucoup de difficultés parce que justement je ne retrouvais pas forcément cette nécessité d'être filmé que j'ai pu rencontrer dans mes précédents documentaires. Et je me suis un peu découragé, et avec les producteurs, on s'est un peu regardé un moment pour se dire, mais où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire fausse route? Et je leur ai dit de me laisser un petit temps pour que je puisse repartir sur mon continent d'adoption pour voir si, en fait, je tenais vraiment à ce film belge et si il n'était pas plus intéressant pour moi de continuer à faire des films en Afrique. Et j'arrive en Côte d'Ivoire et j'achète un véhicule relativement kilométré, 600 000 bornes, et j'ai l'espoir de visiter tout le pays. Mais au bout de 200 km, le moteur casse et la voiture s'arrête en face de l'embarcadère qui menait à cette île. Et de dépit, je monte dans le bateau, je traverse et c'est comme ça que je découvre ce décor en fait.
Donc sans savoir rien sur là où vous échouez.
En fait, je me suis rendu compte après que j'avais déjà lu des choses sur ce territoire, un article du Monde, mais je m'en suis souvenu qu'après. Et certains pourront dire c'est le hasard, d'autres vont dire c'est le doigt de Dieu. En tout cas,
c'est le destin.
Voilà, c'est le destin et ça m'a amené à faire une expérience de près d'un an de tournage avec tous ces personnages qui m'ont énormément appris, avec qui j'ai appris aussi à faire un cinéma plus fictionnel. Parce que cette multitude d'avis, d'histoires, d'un oncle, d'un voisin, des personnages eux-mêmes filmés, qui en fait sont des gens du village, personne n'est professionnel, personne n'a jamais fait de cinéma avant qu'on se rencontre. Bah, toutes ces histoires, bah, j'ai envie de toutes les faire rentrer dans mon film. Et ma seule solution, bah, c'est de créer une héroïne centrale et qui va porter, qui va être le porte-parole de toutes ces histoires et qui va porter sur son dos tous les enjeux de ce village.
On parle d'Aya avec vous, Simon Koulibaly-Gillard. Juste après cette nouveauté musicale hein, venue de Côte d'Ivoire, c'est « Religion », tiré du nouvel album de Tikenja Fakoly. Religion can be crazy. Religion should be cool. Religion can be crazy. If you decide to kill yourself, do it alone. If you wanna go to your paradise, go there alone. Don't bring the kids. Don't bring innocent children. Religion should be cool. Religion can be crazy. Religion should be cool. Religion can be crazy. I can hear some woman crying, 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 crying. I can see innocent parents crying 'cause they lost their child. Nothing is worth dying for that. Religion should be cool. Simon Koulibaly-Gillard, vous êtes avec nous pour parler d'Aya, votre premier long métrage. Alors, une précision, vous avez accolé le patronyme Koulibaly entre votre prénom et votre nom de naissance. Pourquoi ?
Bah, ça fait partie du parcours en fait, que je fais depuis beaucoup d'années du coup, en Afrique de l'Ouest et que je fais aux côtés de Lassina Koulibaly, qui est mon grand ami et mon assistant pour tous mes films. C'est lui qui m'a un peu guidé sur tous les territoires. C'est lui qui m'a donné envie d'aller en Côte d'Ivoire, par exemple. Lui, il est burkinabé, mais il m'a fait voyager dans toute la sous-région. Et donc, Aya, l'héroïne du film, par exemple, ne m'a jamais appelé ni Simon ni Gillard. Pour elle, je suis Tonton Koulibaly. Je l'ai été et je le resterai. Donc, en fait, c'est vrai que dans cette schizophrénie qui peut exister, c'était important pour moi de signer ce film et puis les précédents hein, aussi, du nom Simon Koulibaly-Gillard.
Alors Aya, c'est votre premier long métrage. C'est une fiction donc centrée sur la figure d'une jeune fille, Aya, qui va devoir, enfin en tout cas qui va devoir quitter son île de Laou menacée par les vagues, menacée par l'océan. Là, c'est une réalité. Le film est une fiction, mais vraiment fiction au faux air de documentaire, une fiction documentaire, on peut dire. Laou est menacée, c'est en raison du réchauffement climatique ?
Oui, en partie, effectivement. Il y a plusieurs facteurs, mais le réchauffement climatique est le principal. Pas nécessairement par le fait que l'eau monte, mais par le fait que la température des océans change, et donc les courants marins changent. Étant donné que c'est une zone assez instable, sablonneuse, ben en fait, les courants marins viennent éroder le littoral. Et c'est un problème qui n'est même pas local, hein, qui n'existe pas que sur cette île, c'est un problème qui existe dans tout le golfe de Guinée, depuis la Mauritanie jusqu'au Cameroun. Donc c'est des milliers de villages comme Laouk Panda qui sont dans cette même situation de disparition. Avec d'engloutissement.
Oui, effectivement, on voit ces murs, c'est incroyable, les murs du cimetière, comme on a presque l'impression de voir des ruines antiques.
Ben, ce qui est fou, c'est qu'en fait, moi, j'arrive après 10 ans d'ensevelissement, et en fait, il y avait une ville entière avec des hôpitaux, avec une mairie, une prison, il y avait un phare pour guider les bateaux. Aujourd'hui, il ne reste que des maisons nomades, végétales, que les gens peuvent déplacer facilement, parce que ben, tous les 2 ou 3 mois, il faut déplacer la maison. C'est une société de pêcheurs, donc ils sont obligés de rester au contact de leurs filets qu'ils installent en face de la mer, et précisément là où en fait les dégâts sont faits. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rentrer plus à l'intérieur de l'île pour vivre, parce qu'en fait ils ont vraiment besoin d'être constamment au contact de cette mer un peu ambivalente, de cet océan qui est à la fois l'adjuvant et l'opposant. L'adjuvant parce que bah, c'est par elle qu'on survit, qu'on peut se nourrir, et l'opposant parce que c'est par elle qu'on doit fuir le territoire et se livrer à un exode rural vers la capitale, vers Abidjan ou d'autres grosses villes, où toute cette population finit par perdre son langage, ses coutumes, la culture finit par s'effriter, quoi.
Cette île, vous la filmez, Simon Coulibaly-Gillard, comme vraiment un paradis. Il y a aussi beaucoup de gros plans sur les visages, Naya, celui de sa mère, celui de son petit frère, enfin un bébé. Hein. Mais aussi, vous montrez le quotidien très simple, très heureux, enfin, en tout cas loin de toute marchandise, enfin, de tout mercantilisme, vraiment avec des plaisirs à la fois simples et essentiels.
Oui, c'est vrai que derrière le drame écologique qui a lieu, je pense que le film est aussi surtout un récit très intimiste entre une jeune fille et sa maman. Une jeune fille qui a 14 ans et qui agit finalement comme toutes les adolescentes du monde. Elle ennuie sa mère, elle lui cherche des noises, elle veut aller chez le coiffeur.
Elle n'est pas fiable.
Elle a ses premiers émois amoureux. C'est ce qui me plaît en fait dans ce film, c'est de conjuguer un petit peu ce parcours intime de cette jeune fille qui devient adolescente, qui va devenir une femme avec l'aide de sa maman. Et c'est voilà, ce portrait de ces deux femmes très fortes qui font face à un problème qui les dépasse très largement, mais elles y font face avec leur sourire, avec leur bonne humeur, et tout cette toile de fond, on va dire, de cette île qui se désagrège et qui se veut être métaphoriquement cette enfance en fait qui disparaît des mains de Aya et qui devient petit à petit une femme.
Jésus est de retour. Ne sois pas incrédule, ne dis pas que je m'en fous, parce qu'il va nous surprendre. Nous sommes dans la dernière temps. Ma soeur, mon frère, dans ta vie, dans ton cœur, pour ne pas que la porte du paradis se ferme derrière toi. Pour ne pas que la porte du paradis se ferme derrière toi. Faut accepter Jésus ce matin, dès maintenant et à jamais, dans ta vie à Jésus, dans ton cœur à Dieu, aujourd'hui même, à l'instant, faut l'accepter.
Là, c'est qui ? C'est une prêcheuse de rue ?
Une prêcheuse de rue, c'est la sœur Anne, une amie rencontrée très tôt le matin sur les chemins à l'aube qui traverse le village de part en part en prêchant la bonne nouvelle que le Christ va sauver le village et que c'est par le Christ qu'il y aura forcément une amélioration. Tout ce que Dieu fait est bon, ils ont l'habitude de dire. Et c'est intéressant parce qu'en fait, toute cette société, elle se dédie à Dieu. Et ce qui se passe n'a pas de raison scientifique, n'a pas de raison logique, donc il n'y a pas de solution à trouver. Il faut l'admettre, il faut accepter. Cette île disparaît et ils acceptent avec la foi chrétienne, parce que la grande majorité est chrétienne, c'était un comptoir colonial, c'est par là que le Christ est rentré dans toute cette sous-région.
Donc c'est chrétien catholique.
Alors il y a des catholiques, mais il y a aussi énormément de protestants, il y a plus d'une vingtaine d'églises finalement sur l'île, il y a toutes les voies du protestantisme qui sont là. Les quimbanguistes, les haristes, les bibliques, l'école de Dieu, etc. Et l'église sert un peu de mutualité, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a un problème, on se tourne vers son église et les dons qui sont faits tous les dimanches permettent de faire face aux problèmes, par exemple, du déménagement d'une maison qui aurait été emportée par la mer ou ce genre de pépins.
Parce que la mère d'Aya, alors je ne sais pas si c'est l'église catholique, mais on la voit à un moment nettoyer la statue de la Vierge.
Oui, Patricia, la maman de Aya, elle est de l'église méthodiste. Et effectivement, elle est envoyée par son prêtre pour chaque semaine aller enlever la poussière sur les pieds de la Vierge.
D'accord. Donc effectivement, la religion a un rôle, grand rôle dans ce film.
Oui, en tout cas, c'est vrai que...
C'est présent.
Oui, c'est invoqué tout le temps et c'est présent en général dans toute action qu'on fait sur cette île. C'est Dieu est derrière, quoi.
Alors, il y a des scènes incroyable où l'on voit des fossoyeurs travailler de nuit, exhumer les corps pour pouvoir ensuite déménager les dépouilles.
Ni ewunu akoro ta ni avosu ani bof.
Voilà les fossoyeurs qui extraient donc qui cassent une pierre tombale et qui après font une prière pour voilà le respect de la dépouille. Comment vous avez fait Simon Koulibaly Gillard? Donc ça se passe la nuit régulièrement?
Alors ça se passe en fait en continu, la nuit comme le jour. Moi j'ai choisi de filmer la nuit d'abord parce que c'est un moment qui relève d'une certaine pudeur et je me sentais plus à l'aise. Ensuite ça renforce encore cet aspect, on va dire, inadmissible. Finalement, le point de départ du film, c'est ça. Je vois ces fossoyeurs à l'œuvre et je me dis, mais qui aujourd'hui doit réenterrer à nouveau les morts qu'il a enterrés des décennies auparavant? Et je trouve ça inadmissible et j'ai envie de me faire le témoin de cet acte-là. Et donc, ça devient un peu le fil rouge du film. D'autant que voilà, la maman de Aya a perdu son mari et fait face elle-même au problème économique de devoir déplacer le corps de son mari. C'est-à-dire, est-ce que je m'occupe d'abord du corps de mon mari ou est-ce que je m'occupe de moi-même? C'est-à-dire, est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je déplace ma maison ou alors est-ce que je déplace la maison du corps de mon mari? Donc c'est une question qui anime tout le film et qui, moi, m'a beaucoup troublé, m'a beaucoup touché. Et en fait, j'en ai fait un peu le symbole du combat identitaire du village, quoi.
Oui, parce qu'il faut donc déménager les morts. Sinon, le cimetière est menacé d'engloutissement, en fait.
Ah bah les tombes sont emportées chaque nuit à l'aune d'une marée un peu plus importante ou d'une météo un petit peu dure. On se réveille et il y a une dizaine de mètres de l'île qui a disparu. Et en ce moment, en tout cas moi quand je découvre ce village, c'est le cimetière, un cimetière qui est bicentenaire, dans lesquels les chefs du village se sont été enterrés, etc., et toute la population, qui est emportée, arrachée par les vagues, et les dépouilles qui sont emportées aussi par l'eau.
Comment vous avez travaillé le scénario de votre film, Simon Koulibaly Gillard? Parce que là, les séquences dont on parle d'exhumation, c'est des séquences documentaires. Ce ne sont pas des acteurs qui travaillent une scène. Donc comment ça s'est tissé?
L'écriture, c'est une écriture à plusieurs mains. Donc c'est une écriture qui se fait à la fois, c'est la vie des vrais personnages. Donc c'est la vie de Aya, c'est la vie de sa maman. Mais c'est aussi la vie d'autres personnes qu'on rencontre, qui nous prennent à partie et qui nous récitent des choses qu'ils ont vécues. Et chaque petite scène comme ça vient d'un échange, on va dire, oral. C'est une grande oralité, en fait, évidemment, sur ce territoire. En fait, c'est un scénario oral. Ce scénario, il n'a jamais été mis véritablement à l'écrit. C'est un scénario un peu du quotidien. On rencontre quelqu'un la veille qui nous raconte une histoire. Ça nous marque. On veut que cette histoire appartienne au film, appartienne à ce témoignage. Et alors, on s'arrange par des petits bricolages pour que le lendemain, pour faire une scène qui pourrait remettre en scène l'histoire qu'on a entendue la veille. C'est une manière de cinéma assez artisanale, qui se fait plutôt sur le long terme. Donc voilà, 10 mois de tournage, ça nous donne le temps d'écrire et de réécrire au quotidien de façon un peu instantanée. Et voilà, c'est comme ça que le film prend vie.
Mais 10 mois de tournage en continuité ou vous êtes retourné plusieurs fois à la Houe?
Oui, ça a été trois allers-retours, on va dire 3 voyages de 3 mois et quelques jours. Parce qu'il faut aussi revenir comprendre le film qu'on est en train de faire. Il faut prendre du recul, revoir ces images, les faire traduire et essayer de comprendre qui sont les vrais personnages, quels sont les vrais enjeux. Donc, c'est pas en continu, mais c'est quand même sur un laps de temps assez contenu, d'autant que les personnages sont des enfants, l'héroïne est une enfant, donc elle grandit. Et donc, il fallait avancer dans le film avant que sa physionomie ne change trop. Donc voilà, c'est tous les enjeux de faire des films qui sont hybrides comme ça entre documentaire et fiction. C'est de tirer un peu le meilleur de chaque monde, mais c'est un peu antagoniste, quoi.
Oui, alors vous parliez de faire traduire les images. Et de fait, Aya, sa mère, tous les habitants, ils parlent en quelle langue? C'est le Diola, c'est ça?
Avikam. Donc ils appartiennent à l'ethnie Avikam. Ils parlent cette langue qui est parlée par moins de 20 000 locuteurs aujourd'hui dans le monde et qui est évidemment en voie de disparition du fait de l'exode rural.
Donc c'est une langue qui est parlée près d'Abidjan, c'est ça?
Sur cette île et un petit peu autour, sur les collines avoisinantes, on va dire, sur le continent. Quoi. Ouais. Et c'est tout le film est interprété dans cette langue-là. Il y a quelques passages en français, notamment quand la jeune fille débarque à Abidjan. Et donc c'est une mise en scène qui est un peu spéciale, parce qu'en fait c'est une mise en scène un peu de l'accident, du hasard. Moi je leur donne mes intentions en français, elles comprennent le français. Mais ensuite, elle joue en Avikam, et moi, c'est un mystère. Tant que j'ai pas fait tant que j'ai pas traduit, si ça se trouve, j'annonce la fin de journée, la fin de tournage, mais en réalité, il y a rien dans mes bobines. Donc voilà, c'est un jeu d'apprentissage, de confiance, et c'est là que les 9 mois aussi jouent. C'est qu'à un moment, on s'éduque, et donc elles savent ce que je souhaite. Moi, je sais aussi ce qu'elles peuvent faire ou pas faire, et petit à petit, ça va vite, ça fonctionne.
Ouais, c'est particulier parce que vous ne comprenez pas l'Avikam.
Très peu. Moi, je connais les petites politesses. Bonjour, au revoir, est-ce que je peux avoir de l'eau? Mais effectivement, quand il s'agit de sentiments, là, je dois leur faire confiance.
Leur faire confiance, c'est parce que ce sont des actrices. Hein. Donc Aya, elle ne s'appelle pas Aya, elle s'appelle Marie-Josée Cocora. Mm-hmm. Sa mère, c'est Patricia Iñabatou. Mm-hmm. Ce qui n'est pas sa mère, si ?
C'est sa vraie mère. En fait, c'est sa vraie maman. Elle n'a juste pas été mariée avec le papa de Marie-Josée. Par contre, c'est vrai que ces deux femmes, comme toutes les personnes qui apparaissent dans le film, n'ont jamais fait de cinéma, n'ont jamais vu de film. Aya voit son tout premier film en Belgique pour l'avant-première de Aya, et c'est elle qui est à l'écran, quoi. C'est sa première expérience de cinéma. Mais c'est un apprentissage des deux côtés. C'est que moi, je leur apprends comment faire un film, et elles m'apprennent comment faire un film à cet endroit précis, avec elle et avec les coutumes de l'endroit, quoi. Donc c'est vraiment une éducation qui a lieu.
Et c'est incroyable. Mais vous avez dû avoir des milliers d'heures de rush. Non, peut-être pas des milliers, mais des plusieurs dizaines, non?
Oui, plusieurs dizaines, oui, ça, c'est sûr. Il se trouve que 10 mois de tournage n'ont pas le même rythme que les 5 semaines de tournage d'un long métrage classique. Quand on a tourné à proprement parler 2 heures par jour, donc c'est-à-dire 2 heures de tournage, ça peut donner lieu à 40 minutes de rush. C'est déjà pas mal parce que l'organisation est très complexe. C'est une société qui n'a pas de calendrier, qui n'a pas de montre. Donc on ne dit pas à quelqu'un, viens vendredi pour la scène à 14h. Il faut aller la chercher, il faut l'habiller, il faut lui retrouver ses accessoires, etc. Et c'est très long, c'est très lent. Il faut accepter que tout va se passer très lentement, qu'on va travailler très peu. Et on va essayer de travailler dans la bonne fenêtre de lumière. Et parce que voilà, tout le film aussi est en lumière naturelle. Il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas de solution pour éclairer. Il faut avoir à la fois les bonnes personnes, la bonne scène et la bonne lumière. Donc c'est vrai qu'il faut y aller pas à pas, calmement. Et voilà.
Là, je vous regarde avec des grands yeux. C'est incroyable parce qu'en fait, je précise pour nos auditeurs, j'espère qu'ils iront voir le film, et l'image est sublime. Et vous avez travaillé entièrement en lumière naturelle.
Oui, moi, c'est vrai que j'ai un petit côté formaliste. Je conçois le cinéma un peu comme un médium plastique magnifique. Ce grand écran, tout ce son avec toutes ces fréquences qu'on peut produire. On a envie de tirer sur tous les potards pour en donner le meilleur. Donc, oui, on essaye de soigner l'image, mais le soleil et la lune font une très, très jolie lumière. Bien plus jolie que n'importe quel projecteur.
Non, mais vous filmez de nuit aussi.
Oui, ça, c'est...
C'est particulier, sans lumière.
Alors, c'est la beauté des outils d'aujourd'hui. C'est vrai que le cinéma est arrivé un peu à un stade... c'est un peu comme l'invention du bic. Avant, pour peindre, il fallait un atelier avec... fallait de l'eau pour pouvoir mélanger les pigments, etc. Et puis, aujourd'hui, on a des feutres ou des bics, et on peut faire de très jolies choses. Aujourd'hui, les caméras sont compactes, puissantes, elles arrivent à filmer la nuit, elles voient parfois mieux que l'œil humain. Et donc, c'est des outils qui sont extraordinaires et qui donnent la possibilité de filmer des choses, notamment beaucoup de nuits qui sont tournées juste avec la lumière de la pleine lune. Et voilà, c'est des nouveaux regards qu'on peut porter, et c'est assez sympathique à faire, en tout cas.
Yeah. c'est une scène aussi impressionnante, non? Et c'est des hommes qui chantent pour se donner du courage, de la force. Ils sont en train de tenir un bateau.
En fait, ils sont en train de tirer à eux un filet qu'ils sont allés déposer au large. Alors, c'est une méthode de pêche assez rupestre, assez physique. Ils tirent pendant plus de 5 ou 6 heures un filet qu'ils sont allés déposer au large et qui ramènent lentement sur la plage. Et pour ne pas perdre... le courage, ils s'entraînent avec ces chants et ça dure pendant des heures. Ils font deux séances de pêche, une le matin, une le soir. Donc souvent, c'est au moment d'une lumière aussi un peu rosée, saumonée, et c'est un moment assez magique.
Oui, il y a des très belles images. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là aussi où il y a des dégradés de gris d'orage aussi à l'horizon.
Ah oui, une scène... qui fait un peu qui office de mauvais présage dans le film et qui annonce un peu le départ de l'héroïne qui est poussée en dehors de son village par l'océan et qui doit partir. Et donc il y a cet orage qui vient un peu lui dicter la mauvaise augure.
Effectivement, Aya va aller en ville. Donc c'est Abidjan la tentatrice. C'est presque un schéma de film muet. C'est presque l'aurore. On peut songer comme ça, effectivement, parce que ça fait écho cet exode rural hein, où, de fait, en l'espèce, les habitants sont presque sommés d'aller à la ville. C'est pour survivre.
Oui, c'est une question de survie, mais qui est un peu fausse, en fait, au final, parce que il y a cet appât, il y a une promesse, évidemment, d'un dynamisme, d'une conscience du monde que la ville peut avoir, mais c'est vrai que les grandes villes africaines sont aussi des endroits où on s'enterre, où c'est très difficile d'exister, où c'est très difficile d'avoir une prospérité, et en particulier pour une jeune fille de 16 ans qui n'a jamais connu cette ville et qui débarque là-dedans et qui doit absorber les codes, qui, au contact de sa cousine, est emmenée à vivre des choses qui sont des choses de femmes. Mais il y a un espoir, il y a quelque chose de très beau, parce qu'en fait, Aya, au moment où elle débarque à Abidjan, elle est prête à devenir une femme, elle est aussi prête à devenir quelqu'un d'autre, et avec le souvenir de son île, le souvenir de cet océan qui chante dans sa tête, de ces chants d'hommes qui chantent dans sa tête. Mais elle sourit au futur qui s'étend devant elle et à toutes les possibilités de devenir une nouvelle femme.
Simon Koulibaly-Gillard, ce film Aya, il a beaucoup tourné en festival, hein, notamment évidemment à Cannes l'an dernier dans la section Acide, mais il a tourné un peu partout dans le monde. Vous avez fait le tour du monde avec
On l'a accompagné dans beaucoup d'endroits. C'est vrai que du fait que ce film ne soit pas francophone et transporte, on va dire, une voix un peu rare, le film voyage. Il a voyagé en Russie, au Mexique, en Corée, au Maroc, il est en Côte d'Ivoire. Enfin, il a été montré dans beaucoup d'endroits et c'est la magie un peu du cinéma, c'est de pouvoir transporter le sourire de Aya dans n'importe quel endroit, d'entendre sa voix, d'entendre sa langue et d'entendre ce qu'elle a à nous raconter.
Mais ça parle, non, j'imagine, parce que ce cas de village menacé dans la survie et menacé par la montée des eaux, c'est à la fois très spécifique, mais en même temps, c'est aussi très universel.
Oui, c'est effectivement un phénomène qui fait écho à peu près partout aujourd'hui. Et c'est malheureux. Mais c'est important, en tout cas, de raconter des histoires de destin, parce que j'ai l'impression qu'on peut beaucoup expliquer scientifiquement, donner beaucoup de chiffres, des contextes. Voilà pourquoi ça existe, voilà comment ça existe. Mais je pense que le plus important, et finalement la seule manière qu'on a de réagir et de se dire qu'en fait c'est inacceptable, c'est qu'il y ait un être humain qui soit emporté là-dedans et de voir en fait dans une destinée humaine qu'est-ce qui se passe, comment cette personne-là le vit émotionnellement, qu'est-ce que ça induit en fait dans son parcours de vie. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus touchant que d'écouter... une voix off qui va nous expliquer que des kilomètres de sable ont été emportés. Je pense que... Enfin, en tout cas, moi, c'est le pari que j'ai pris avec ce film, c'était de raconter ce problème écologique de l'intérieur à travers juste un regard, une jeune fille qui nous raconte ce que ça lui fait, quoi.
Le fait d'avoir donc cette forme hybride documentaire-fiction, ça, c'est quelque chose que vous avez envie, du coup, de continuer à l'avenir, puisque c'était votre premier long-métrage.
Oui, je pense qu'à chaque film, on fait un nouvel apprentissage. Mon tout premier court-métrage, il n'y avait pas de son synchrone. Donc c'était des bricolages, il n'y avait pas de personnages, on ne connaissait pas leur nom. Puis après, on commence à rajouter des dialogues, etc. Et on a toujours besoin d'un nouveau défi, d'un nouvel apprentissage. Peut-être que je ferai une comédie musicale la prochaine fois, je ne sais pas. Mais non, c'est vrai qu'on a envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Et là, effectivement, c'était plus de scénario, plus d'empathie. Et c'était pas juste une envie de langage, c'était que l'histoire de cette jeune fille me le réclamait, quoi. Il fallait qu'on aime cette jeune fille, il fallait qu'on ait de l'empathie pour elle pour pouvoir comprendre en fait tous les enjeux qui se déroulaient sur ce territoire.
Et vous avez déjà des prochains projets ? Enfin, est-ce que c'est encore en Afrique ?
Oui, ça, a priori, c'est encore. Je pense que j'ai encore des films africains à faire. Et des prochains projets, il y en a beaucoup. Ça se bouscule pas mal dans la tête. Il faut rater beaucoup de films pour réussir un. Donc j'en ai quelques-uns à rater, en tout cas, avant d'en réussir un, là, je sais. Donc je suis sur le chemin, petit à petit.
Mais là, le fait que Aya ait tourné beaucoup en festival dans le monde, ça a changé quelque chose à votre au fait de pouvoir trouver des producteurs, le financement.
Moi, j'ai eu une chance, j'ai toujours eu des producteurs très...
Investis.
Ouais, investis, généreux, honnêtes auprès de moi. Donc ça, c'est une chance. Et ils sont toujours là. Mais non, je ne pense pas que mon statut ait changé. Ma passion non plus, tout est là à sa place. Faire un petit chemin de cinéma, c'est en toute humilité, quoi.
Merci beaucoup Simon Coulibaly-Gillard. Je rappelle le titre de votre film, Aya, sur les écrans français, mercredi prochain. Une nouveauté musicale dans tous les cinémas du monde. Avant de partir au Cameroun pour Écran Noir, c'est Jeanne Haddad qui sort un nouvel album dont est tiré ce bijou, Hey Boy.
I see you're saying things I need to hear. Don't worry, it's crystal clear. You're trying to be good and kind. What you're looking for, I hope you'll find. There's no room for compromise. Half-truths and alibis. So many things we can't allow. Sign on the door says fool anyhow.
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Il est une guerre dont on parle peu dans les grands médias, un conflit oublié mais qui a déjà fait en 20 ans plus de 300 000 morts et 2 500 000 déplacés. C'est la guerre du Darfour, cette région à l'ouest du Soudan. C'est en s'intéressant au destin des rescapés de massacres demandeurs d'asile en France que le documentariste Camille Poncin a rencontré Marie-Josée Tubiana. L'ancienne chercheuse du CNRS vient en aide aux déboutés du droit d'asile, car elle seule peut authentifier leurs témoignages devant l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés. Marie-Josée Tubiana, c'est la combattante, pour reprendre le titre du documentaire sorti cette semaine sur les écrans français. J'ai pu la rencontrer chez elle, dans son appartement, regorgeant de livres, de dossiers et d'objets rapportés de ses différentes missions au Darfour, là où on la voit recevoir à l'écran des demandeurs d'asile ayant vécu les pires horreurs.
Quel âge il avait quand le village a été attaqué ?
Elle avait 13 ans.
13 ans.
Moi, j'ai travaillé au Tchad d'abord, au Darfour ensuite, pour des raisons de circonstances, le Tchad m'étant fermé. Mon mari et moi, on était tous les deux là. Nous sommes partis au Darfour en disant si on ne veut pas de nous au Tchad et en France, allons au Soudan et en Angleterre avec humour. Et on a été très bien accueillis au Darfour. Je n'ai eu qu'un accueil formidable et une participation très grande. Et quand ils sont venus ici et qu'ils étaient en difficulté, et ils venaient me voir, trouvant normal de venir chez moi. Et ils disaient en venant ici, « Ah ben, chez toi, c'est comme chez nous. »
Alors vous parlez des personnes en difficulté, c'est que depuis plus de 20 ans, les populations du Darfour sont prises pour cible par des milices arabes janjaouides, sous protection à l'époque de l'ex-dictateur Omar el-Béchir.
Sous protection, sous mercenaires, et ça continue un peu. Les janjaouides sont toujours là, et la répression est toujours là. La paix n'est pas instaurée.
Donc ils viennent demander l'asile en France, et beaucoup sont déboutés. On se rend compte en voyant le documentaire de Camille Poncin, La combattante, dans lequel on vous voit, Marie-Josée Tubiana, qu'en fait, les demandeurs d'asile sont déboutés, mais parce que les personnels de l'OFPRA ne connaissent pas du tout la région. Vous, vous connaissez très précisément les lieux. Vous, vous ressortez des cartes établies lors de vos missions dans les années 60.
Simplement, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'abord de clarifier ces déclarations de l'OFPRA qui dit... Monsieur Untel dit qu'il était à tel endroit, mais cet endroit n'existe pas, je ne le trouve pas. Et je dis, moi, j'ai une carte que j'ai fait moi-même et je vais vous en envoyer un exemplaire. Donc, je fais tout ça. Ça me demande beaucoup de temps, de recherche, mais je le fais volontiers parce que je pense que j'ai une dette vis-à-vis de ces gens. Ils m'ont aidé, ils m'ont accueilli. Je dois les aider, je dois les accueillir. Donc je n'ai pas arrêté. Même quand, après m'être cassé la jambe, j'ai pu en faire rentrer quelques-uns.
On a quand même le sentiment, en voyant ce documentaire, Marie-Josée Tubiana, que vous leur sauvez la vie. Ces personnes, hommes, femmes, ils rentrent dans leur pays, ils risquent la mort. Pour les femmes, il y a un cas très très émouvant d'une jeune femme excisée, mariée de force, et qui veut protéger sa fillette.
Voilà. Mais je trouve que c'est une dette. C'est une dette pour moi et je ne peux pas la refuser et je ne veux pas la refuser.
Marie-Josée Tubiana, dans le documentaire La combattante, on voit donc votre action actuelle, contemporaine auprès des demandeurs d'asile, mais il y a aussi des passages de vos carnets de mission des années 60, fin des années 60 qui sont lus. Et puis on voit des images parce que quelque part aussi vous êtes documentariste. Vous êtes documentariste, il y a des images en 16 mm.
Mais je prends beaucoup d'images. J'avais une caméra 16 mm d'ailleurs. J'ai fait du film, j'ai fait des images et j'ai fait beaucoup d'images, bien sûr. Donc on voit ces images et Camille a fouillé un peu partout et a découvert pour montrer ce que pouvait être un pays pauvre, austère, mais qui n'était pas en guerre. Bon. Et puis il y a eu cette péjoration climatique importante et qui a fait que les gens qui étaient plus au nord ont voulu descendre et ils avaient besoin de terre et ils ont été complices à ce moment-là du gouvernement soudanais pour faire de la politique de terre brûlée et s'emparer des terres des autres.
Marie-Josée Tubiana, merci. Je rappelle le titre du documentaire dont vous êtes l'héroïne, La combattante, de Camille Poncin.
Je ne suis pas l'héroïne. Non. Je n'ai jamais fait attention à la caméra. Quelqu'un m'a dit, mais tu es une très bonne actrice. Je dis, je ne suis pas une actrice. Je suis sans doute une bonne actrice parce que je ne joue pas. Je suis passive devant la caméra. Et après, j'ai vu quand c'était fait. Voilà.
Tous les cinémas du monde.
Tous les cinémas du monde.
On part au Cameroun maintenant pour saluer le festival Écran Noir qui s'achève ce samedi à Yaoundé. Écran Noir, c'est le festival de cinéma d'Afrique centrale, un rendez-vous dont RFI est de longue date partenaire. Le thème retenu cette année, c'était le cinéma, un art total. Et de fait, cet art total et ce festival attirent non seulement des acteurs, des réalisateurs, mais aussi des chanteurs comme Passy ou Blik Bassi venus présenter des films comme acteurs ou réalisateurs. Et le chef d'orchestre de cette fête, c'est Bassek Bakobio, un réalisateur au film reconnu à l'international. Son dernier long métrage en date, Le silence de la forêt, avait été sélectionné au Festival de Cannes dans la section La quinzaine des réalisateurs, c'était en 2003. J'ai pu joindre par téléphone Bassek Bakobio et lui demander ses souvenirs de la première édition d'Écran Noir, c'était en 1997.
Et à l'origine, c'était donner l'opportunité aux jeunes Africains d'Afrique centrale de voir des films africains. J'étais un peu jaloux du fait que Ouagadougou puisse tous les deux ans au moins montrer, même si ce n'était qu'une fois, des films africains. Et puis après la réalisation de mon film « Le Grand Blanc de la Marinée », je vais jusqu'au Vietnam le présenter. Mmh. Alors que mon pays, le Cameroun, ne l'a pas encore vu, alors que le Gabon dans lequel je l'ai tourné ne l'a pas encore vu. Et c'est en fait en remontant dans l'avion que j'ai dit au directeur de l'OIF de la francophonie qui nous accompagnait, je lui dis « Écoute, je vais trouver un moyen de montrer nos films, n'est-ce pas, en Afrique centrale. » Et au départ, ce n'était pas un festival. Je voulais faire une distribution un peu systématique, un peu classique. Mais quand j'ai fait deux opérations, en commençant par le Grand Prix du FESPACO de cette année-là, qui était au nom du Christ de Roger Nyambala, que j'ai fait venir au Cameroun, je me suis rendu compte, après ces deux premières expériences, qu'il y avait certes, n'est-ce pas, au niveau du public, une réception estimable, mais au niveau financier, c'était catastrophique. Et puis je me suis rendu compte que peut-être nous n'étions pas encore à l'étape où nous pouvions commercialiser nos films de manière classique. Et c'est un ami qui dirigeait d'ailleurs une boîte qui m'a dit, écoute, essaye un festival parce que là, nous pourrions trouver des moyens de t'aider un peu plus. C'est comme cela qu'en 1997, on lance le festival Écran Noir.
Donc c'était il y a 25 ans. Donc et en 25 ans, le festival a bien grandi, non ?
Ah, il a grandi, vraiment. Ça dit que moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais bon, ça a été au détriment de ma création cinématographique à moi. Parce qu'il faut dire que lorsque je fais Le Grand Blanc, je prépare déjà Le Silence de la Forêt. Je suis l'un des cinéastes en Afrique qui aurait pu tourner, tous les trois ans à l'époque, parce que ce n'était pas l'époque du numérique où on tourne un peu plus facilement. Ça a tellement grandi. Donc, au début, ce n'était que la diffusion. Et puis très vite, je me souviens d'un jour, c'était la deuxième édition, on a commencé à avoir quelques colibés qui fusaient par-ci, par-là, parce qu'on nous disait, ah, mais vous quittez la colonisation française et vous entrez sous la colonisation burkinabé. Parce qu'il n'y avait que des films burkinabé à l'époque. Et donc, on s'est dit, il faut commencer à former nos jeunes. Et c'est ainsi que dès 1998, nous nous sommes lancés dans la formation, qui est devenu aujourd'hui quelque chose de très important pour nous, parce que nous avons, depuis l'année passée, mis en place dans l'Institut supérieur de formation au métier du cinéma et de visuel, qui est niveau université. Puis nous avons des opérations comme le KIT, Cinéma Corner, le cinéma pour enfants, qui lui aussi est très porteur. Et nous nous sommes dit, voyant tous les jeunes qui venaient au festival, qui nous disaient, j'ai un projet, comment je peux faire pour le faire voir, comment je peux rencontrer les financiers. Nous avons dit, il faut créer une espèce de marché de l'Afrique centrale. C'est une possibilité pour les jeunes, cette année on en a 66, de présenter leur projet avec, au bout de la chaîne là-bas, du côté soit de Paris, en l'occurrence, il y a Canal+, il y a TV5, il y a d'autres, n'est-ce pas, qui sont au bout là-bas, qui suivent des présentations de ces projets sur deux jours. Et nous avons appelé cela marché parce qu'il y a le pitch, il y a la possibilité pour les télévisions d'Afrique centrale de voir des œuvres qui ont été produites. Et cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui, je crois, est décidée à nous accompagner.
Mais alors, Bassek Bakobio, donc c'est la 26e édition cette année d'Écran Noir. Il y a une compétition, il y a des films projetés, une compétition, un palmarès ce samedi soir avec l'écran d'or qui sera décerné. Est-ce qu'il y a des thématiques que l'on peut retrouver dans les films qui vous ont été soumis à vous, délégué général ?
Ah oui, bon d'abord, il faut se bien de préciser qu'il y a une compétition désormais parce que pendant 12 ans, il n'y a pas eu de compétition. Oui, nous avons le documentaire, nous avons la fiction, nous avons le court-métrage, nous avons la série même. Et depuis l'année passée, nous avons lancé la web-série parce qu'elle est très populaire, la web-série en Afrique centrale. Et donc, nous avons cela. Et vendredi, effectivement, il y aura donc le Grand Prix de la compétition. Mais nous constatons qu'il y a effectivement, je veux dire, des thématiques qui reviennent régulièrement au cours de l'année. Par exemple, cette année, au niveau des documentaires, la question de l'immigration, la question du départ a été très abordé. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu deux grands projets en Afrique, un projet drivé par les Sud-Africains et un autre qui, je crois, se faisait au Kenya. Il y a eu beaucoup de produits qui ont été faits sur la question du départ, de l'immigration, comme cela. Et on retrouve ces mêmes thèmes au niveau de la fiction, du long métrage, n'est-ce pas, partir, laisser le chez soi et partir. Et à côté de cela, bon, il y a toutes ces histoires de pas politique forcément, mais toutes ces histoires, n'est-ce pas, qui posent des problèmes de société, qui se disent, bon, on va vers où, il y a des films où on se rend compte que la différence gêne quelque part, il y a des films où on se rend compte que la question de l'émancipation des femmes est un gros problème parce qu'elles se libèrent, elles s'émancipent, elles s'autonomisent. Et ça, c'est des thèmes qui sont très abordés dans les longs métrages.
Bassek Bakobio, on le disait, vous le disiez, à l'origine d'Écran Noir, il y a cette envie de montrer les films d'Afrique centrale au public d'Afrique centrale. Alors, est-ce que le public répond présent à Yaoundé pour Écran Noir?
Ah, le public répond très présent. Et donc, je veux vous dire aussi que l'une de nos satisfactions, mais votre question me donne l'opportunité d'en parler, l'une de nos satisfactions, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous n'avez vraiment plus besoin de militer pour que les films africains, les séries africaines soient regardées par les Africains. Parce qu'avant, il y avait ce refus, ce rejet de l'image africaine. Aujourd'hui, les stars, n'est-ce pas, ce n'est pas des comédiens qu'on irait prendre aux États-Unis ou en France. C'est des comédiens sénégalais, congolais, sud-africains qu'on a vu dans des séries qui cartonnent, et camerounais aussi, par exemple, qui cartonnent. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on a décidé de voir ces productions qui sont faites pour nous, chez nous. Ça, c'est tout à fait quelque chose qui, moi, me frappe et qui est à mettre à l'actif, n'est-ce pas, de l'évolution du cinéma en Afrique. Maintenant, il reste que, dans tout cela, est-ce que tout cela concourt à faire de l'Africain quelqu'un d'assez autonome aujourd'hui, de libre? Bon, ça, c'est et il faudra l'évaluer dans 10 ou 15 ans. Mais aujourd'hui, des films africains sont vus par les Africains et c'est quelque chose de très important pour nous.
Et on se quitte en musique avec Blik Bassi, One Last Time. Le chanteur camerounais est venu à Yaoundé, à Écran Noir. Mais pas pour un concert, non, pour présenter son court-métrage Future Lullaby. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Fanny Renard. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de Philippe Faucon pour son nouveau long-métrage, Les Harkis, qui explore les blessures de la guerre d'Algérie. D'ici là, bonne semaine à tous. Maybe nearly, 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 nearly,